Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Joël Sauré.
4 août 1983, 4 août 2023, et cela fait 40 ans, jour pour jour, que le capitaine Thomas Sankara avait pris le pouvoir et engagé d'énormes réformes politiques et démocratiques. Ce 4 août marque également le premier anniversaire du Front patriotique. Face à la presse ce matin, les premiers responsables de ce mouvement ont porté un regard critique sur la situation nationale sous l'impulsion du MPSR 2. Niger, les militaires au pouvoir ont dénoncé hier les accords militaires et la présence de forces françaises dans le pays. Notre invité de la rédaction est Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Avec lui, il est question des travaux de rénovation du stade du 4 août ainsi que les salaires des sélectionneurs nationaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal sur Radio Oméga. Dans la nuit du 4 août 1983, la haute volta actuelle Burkina Faso rentre dans l'ère de la révolution démocratique et populaire. Cela à travers la proclamation du Conseil national de la révolution CNR lu par le capitaine Thomas Sankara. Et cela fait 40 ans, jour pour jour, que le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara avait pris le pouvoir et a engagé d'énormes réformes politiques et démocratiques. Valérie Guéret et Julie Tombiano pour le rappel des faits.
Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, des militaires venus de Pau avec à sa tête le capitaine Blaise Compaoré font une descente musclée dans la capitale avec un commando de Pau pour libérer leurs camarades Thomas Sankara et renverser du coup le pouvoir militaire de Jean-Baptiste Ouédraogo. Il ne faudra pas bien longtemps pour qu'on apprenne que c'est Thomas qui dirige désormais les affaires. Très rapidement, le chef de la révolution burkinabé fera une déclaration à la radio nationale pour assumer pleinement leur action, c'est-à-dire le coup d'État, et rassurer que le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo est gardé en lieu sûr, sain et sauf. Une révolution qui n'était que l'aboutissement d'une insurrection déclenchée le 17 mai 1983. En effet, un mois plus tard, le 17 juin 1983, le président Jean-Baptiste Ouédraogo effectue une purge au sein de son gouvernement. Le premier ministre Thomas Sankara est arrêté, ainsi que ses deux compagnons Boukari Lengani et Henri Zongo. Ils sont soupçonnés de comploter avec la Libye dans le but de renverser le gouvernement en place. Pourtant, le capitaine Sankara a joué un rôle clé dans le coup d'État de 1982 qui avait porté Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir. C'est ainsi que Thomas Sankara, Blaise Compaoré et d'autres de leurs compagnons vont former le Conseil national révolutionnaire CNR pour diriger le pays. Le père de la révolution voltaïque exprime sa volonté d'entreprendre des réformes démocratiques et populaires. Un an après sa prise de pouvoir, c'est-à-dire le 4 août 1984, le chef de la révolution burkinabé célébrait le baptême de la Haute Volta. La Haute Volta devient Burkina Faso, qui signifie patrie des hommes intègres. Dans la même veine, les couleurs du drapeau et la devise du pays sont aussi changées. En associant la notion de l'intégrité au nom du pays, il lançait ainsi un défi permanent aux Burkinabés de toutes les générations, celui d'être à la hauteur du nom de leur terre natale, des hommes et des femmes intègres.
À seulement 4 ans de règne, le capitaine Thomas Sankara a fait de grandes réalisations au profit de la population. On peut citer entre autres la construction des cités et le projet d'irrigation du Sourou. Ces réalisations visaient à développer le système socio-économique de la Haute Volta, baptisé plus tard Burkina Faso. Pour avoir un aperçu sur ces réalisations, nous sommes allés à la rencontre de Fidel Toé, ancien chef de cabinet du capitaine Thomas Sankara. Selon notre interlocuteur, le président avait plein de projets de réalisation pour son pays, mais hélas, il a été assassiné bien avant son heure. Un retour sur certaines d'entre elles avec Irène Nikiema et Charles Da.
Le 4 août 1983, Thomas Sankara accédait au pouvoir. Les capitaines qui dirigeaient la Haute Volta décident alors d'amorcer un changement significatif dans la trajectoire du pays afin de ne plus dépendre de l'aide extérieure. Sankara fait appel aux bras valides et la force du travail d'un peuple mobilisé. Des actes forts et symboliques se sont multipliés sous la révolution sankariste. Ainsi, des projets de développement par les CDR, comme l'aménagement de certains barrages, ont été engagés par Thomas Sankara. Si les mesures spectaculaires améliorent la production agricole, il fallait en même temps développer les moyens de communication qui permettront de mieux la répartir entre les régions. La construction de routes s'impose. Mais très vite, la réalité rattrape les révolutionnaires. Le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent pour construire ces routes nécessaires à l'acheminement de la production, fait défaut. Alors, on va recourir à la mobilisation générale. C'est ainsi que démarrent les travaux du chemin de fer, baptisé sous la bataille de rails. À la main, chaque Burkinabé doit poser un rail. La construction du chemin de fer est donc lancée sans financement extérieur. Fidel Toé se souvient de cette aventure.
La bataille de rails fut un rêve d'une grande beauté. Moi, j'y ai participé. Tous les secteurs de la vie nationale ont participé. Les gens qui venaient pour le FESPACO ici, chacun se mobilisait, trouvait l'idée formidable et venait à la bataille du rail. Les Saint-Mène Ousmane, là, chacun prenait. Parce que les Français nous ont dit aussi qu'eux, ils ne vont pas financer la bataille du rail.
Le capitaine ne s'est pas arrêté là. Dans le souci de venir en aide à certains fonctionnaires affectés dans les zones reculées de Ouagadougou, il a initié la construction des cités dans les provinces dénommées cités du 4 août. À en croire l'ancien chef de cabinet Fidel Toé, ces cités ont été construites par les CDR avec l'aide de la population. Fidel Toé, ancien chef de cabinet du président Thomas Sankara.
En construisant des cités du 4 août, on permettait à des fonctionnaires qui sont affectés d'aller immédiatement sur leur lieu d'affectation et de recevoir également leur famille sur ces lieux d'affectation.
Ces constructions de logements modernes dans les villes contribuent à freiner le phénomène de la recrudescence de l'habitat spontané et de donner une belle image aux villes. À titre illustratif, nous avons les cités en 2, en 3, en 4 de l'opération 1200 logements des cités de Signogué et de Songtaba. Pour réussir son plan révolutionnaire, Thomas Sankara a mis l'accent sur le développement endogène. Les populations étaient mises à contribution pour exécuter les grands chantiers. Les travaux d'intérêt commun ont été retenus pour amener chaque citoyen à participer à la construction de la nation. Partant de ce principe, il y a eu la construction des logements dans les 30 provinces du pays, ainsi que des barrages pour l'agriculture et l'élevage. Mais très vite, toutes ces idées révolutionnaires vont s'éteindre avec la disparition du capitaine le 15 octobre 1984. Thomas Sankara n'est plus, mais il demeure l'une des figures panafricanistes populaires en Afrique et dans le reste du monde.
Ceux qui ont vécu cette période de la Révolution se rappellent certainement de cet orchestre, les Colombes de la Révolution, un orchestre qui avait pour but de déceler les talents et de faire valoir les actions des révolutionnaires. Les Colombes de la Révolution étaient dirigées par Abdoulaye Cissé, artiste, chanteur. 40 ans après cette belle époque, Abdoulaye Cissé garde en mémoire les bons souvenirs de cette période de sa vie. Il regrette amèrement le départ de son ami, le capitaine Thomas Sankara, assassiné en octobre 1987. Remontons le temps avec Farida Toubilem et Solomon Nikima.
Abdoulaye Cissé, artiste musicien, a connu la révolution d'août 1983. Il était animateur à la radio nationale à l'avènement de la révolution. Convoqué un soir à la présidence, le capitaine Thomas Sankara présente à Abdoulaye Cissé le projet de création d'un orchestre appelé les Colombes de la Révolution. Cet orchestre était composé de jeunes garçons dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans et de jeunes filles de 17 ans et plus. Les Colombes de la Révolution étaient, selon Abdoulaye Cissé, le porte-flambeau de la Révolution. Leur rôle véhiculait des messages à travers la musique pour promouvoir les actions révolutionnaires. Abdoulaye Cissé a la nostalgie de cette époque.
Les souvenirs, c'est des bons souvenirs pour moi. C'est les tournées, aller en Europe, aller en Afrique, faire le tour du monde avec le président. C'est beaucoup d'expériences que moi j'avais vécu déjà quelques fois en individuel. Mais bon, avec la formation, c'était vraiment, c'est super quoi, avec les enfants, avec l'orchestre des filles. Donc on a eu la chance quand même de vivre des bons souvenirs.
Le septuagénaire garde un seul mauvais souvenir de cette période révolutionnaire. Il s'agit de l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Une pilule qui fut difficile à avaler.
Comment je l'ai vécu ? Très mal, comme tout le monde à cette époque-là, très mal. Parce qu'on ne s'y attendait pas. C'était vraiment très, 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 très triste. Ben ouais, c'est comme ça. Vu les liens qu'il y avait entre nous, vu les liens qu'il y avait entre lui et ces deux formations-là, c'était vraiment très, 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 très triste pour nous.
Malgré ce coup de massue qu'a subi le groupe avec l'assassinat de Thomas Sankara, Abdoulaye Cissé ne regrette pas son attachement à la révolution. Pour lui, diriger l'orchestre Les Colombes de la Révolution était aussi une façon d'apporter sa pierre à l'édification de son pays. Et il en est fier.
En 4 années de révolution conduite au Burkina, Thomas Sankara a été le sujet de nombreux titres musicaux. Les artistes chanteurs du Burkina, comme d'ailleurs, ont chanté le père de la révolution du Burkina de son vivant comme après sa mort. Petit tour d'horizon des chansons qui mettent à l'honneur Tom V, c'est avec Gildas Da.
4 août 1983, un jeune svelte capitaine prend le pouvoir au Burkina. La révolution qu'il va implémenter à son pays, le Burkina Faso, va en fasciner plus d'un. Thomas Sankara et la révolution burkinabè vont être chantés par des artistes de divers horizons. Le tube de la diva Tchalamwana n'est pas chanté en Lingala, langue de son pays, la RDC, mais bien en Moré, une langue du Burkina. Dans cette chanson, la star africaine des années 80 dit que le Burkina s'édifie grâce à la révolution. Après l'assassinat de l'homme en 87, de nombreux artistes vont chanter son nom. Depuis le Mali, Nahawa Doumbia fleure Sankara. L'incarnation de l'intelligence, c'est lui qui a redoré le blason de l'Africain noir est mort. Ainsi parle-t-elle de Sankara dans ce titre. Sur la même longueur d'onde, le Sénégalais Didier Awadi, lui, se proclame fils de Sankara. Militaire révolutionnaire mort, mais son esprit demeure, comme le clame Rickson Dolex du Burkina.
Nous étions étrangers à cette tête. Nous ne pouvons donc pas la payer.
En 2022, le procès Thomas Sankara aura enfin rendu son verdict. Mais avant ce jugement, beaucoup comme le reggae maker Océan attendaient que la vérité sorte. Et ils sont nombreux les artistes qui ont chanté ce héros africain. Fadal Dei.
Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits.
Le rappeur français Manova et son texte acerbe.
Et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs plein d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un phare.
Sido Païs de Guinée-Bissau.
Aujourd'hui c'est toi Sankara. Toi qui étais le miroir.
D'Afrique à l'Europe, en passant par les Amériques, l'Asie et l'Océanie. Le nom de Thomas Sankara retentit comme celui du héros africain qui a fait face aux puissants pour le bien de son pays.
Vive la révolution, vive tous les Burkina.
Ce vendredi 4 août marque le premier anniversaire de la création du Front patriotique. Cette occasion est saisie par ce mouvement qui sort de son silence pour porter un regard critique sur la situation nationale et même au-delà de nos frontières. C'était au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou ce matin. Faridatou Belem et Abdoulaziz Zoulabou pour plus de détails.
Qualifié de dérive grave, le Front patriotique dénonce entre autres le caractère non inclusif de la gouvernance actuelle, la catégorisation des citoyens burkinabés en patriotes et apatrides, les exécutions extrajudiciaires pour ne citer que cela. Un diagnostic sans complaisance établi par le mouvement au cours de ce point de presse. Athanase Boudou est le secrétaire général du Front patriotique.
L'État burkinabé, c'est un État qui est un peu aux antipodes des aspirations des populations parce qu'il n'y a jamais eu ce pacte victorieux qui permet à tout l'État de pouvoir aller dans un processus de développement. L'administration est une administration totalement centralisée, donc improductive, donc qui n'est pas en phase avec les besoins des populations. L'armée est une armée élitiste qui s'est avérée inefficace. La preuve est qu'aujourd'hui nous peinons à pouvoir aller dans un sens de pouvoir sécuriser la population burkinabé.
Les récents événements en lien avec la libération de la guérisseuse de Komsiliga par des militaires n'ont pas échappé à la vigilance des conférenciers du jour. Une situation regrettable qui vient rappeler un manquement de l'exécutif vis-à-vis du pouvoir judiciaire sous le MPSR1. Athanase Boudou.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pendant le MPSR1, c'est la venue de Blaise Compaoré au Burkina Faso, alors que, étant sous le coup de la justice, qui a été jugé, même si c'est par contumace, qui a été condamné, mais par forceps, est rentré au Burkina et puis ressorti sous la protection du MPSR2. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Préoccupé par la situation qui prévaut au Niger, ce regroupement de partis politiques, mouvements citoyens et organisations de la société civile appelle à la prise en compte de l'intérêt supérieur des populations dans la prise de décision, que ce soit du côté de la CEDEAO, de l'UOMOA ou encore des nouvelles autorités.
Hors de nos frontières et dans un communiqué lu à la télévision nationale hier jeudi, les militaires au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont décidé de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. Il s'agit plus précisément des accords qui concernent le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une intervention étrangère ne permettra pas de résoudre la crise au Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet, ont estimé ce vendredi les autorités russes au moment où le président déchu nigérien Mohamed Bazoum a appelé les États-Unis et la communauté internationale à agir. Il est peu probable que l'intervention des forces extra-régionales puisse améliorer la situation, a déclaré à des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, tout en appelant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger.
L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, reçu lundi dernier sur le plateau d'Omega Sport par Ibrahim Bayili et Idrissa Lompo. Le docteur Boubacar Savadogo est revenu sur le stade du 4 août. Il a également abordé la question des salaires des entraîneurs et les nouvelles réformes de son département. Écoutons le docteur Savadogo.
Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, Bayili.
Le stade du 4 août reste une épineuse question. Qu'est-ce qui bloque l'avancée des travaux actuellement? Allons-nous retrouver le stade pour les prochaines échéances des étalons, mais aussi des équipes engagées en compétition africaine?
Alors, le stade du 4 août, fameux stade du 4 août, ce n'est pas seulement l'affaire des sportifs, c'est l'affaire de tout le Burkina. Ça ne fait aucune fierté pour nous. Cameroun, nous sommes qualifiés dès la 4e journée des éliminatoires à la CAN qui vient en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons pas de stade. Et tout ça, ça fait mal. Alors, nous avons regardé objectivement parce que la question du stade avait été traitée à un moment donné avec légèreté. Nous avons trois éléments sur le stade du 4 août. La première, qui est fondamentale, c'est le fait que le stade a été disqualifié. Donc, il y a des éléments à réhabiliter pour que l'on puisse être réqualifié. Le deuxième élément, c'est ceux qui sont en train de réaliser les travaux. Et le troisième élément, ce sont les acteurs du football qui sont en lien avec les instances qui nous ont disqualifiés. Est-ce que tout ceci faisait corps ensemble pour résoudre le problème? Non. Donc, il a fallu notre arrivée pour qu'on demande à la fédération de se remettre en selle. C'est la fédération qui discute avec la CAF pour que les choses puissent avancer. Nous avons constaté que dans le contrat qui est en exécution, ce qui était demandé par la CAF pour la réhabilitation, il y a un certain taux qui ne fait pas partie du contrat. Un autre point qu'il faut ajouter, c'est l'état de la pelouse du stade du 4 août. La pelouse est hors norme, alors que les travaux en cours ne prenaient pas ça. On avait un contrat avec une autre entreprise qui devait réhabiliter la pelouse, mais l'entreprise s'est montrée défaillante. C'est lorsque je suis arrivé, j'ai dû résilier le contrat au mois de mars ou avril. Mais il faut passer par des procédures pour résilier un contrat. Et donc, nous avons entamé des démarches pour savoir quelles sont les qualités de pelouse qu'il nous faut pour être homologué. Et donc, nous avons eu une expertise qui est venue à Ouaga. Ils nous ont fait un diagnostic et nous attendons que les devis nous soient présentés pour qu'on puisse se prononcer, pour que les travaux puissent démarrer. Mais ce qui est sûr, le dernier match de qualification des étalons pour la CAN en Côte d'Ivoire, mois de septembre contre l'ex-Swaziland Etswani aujourd'hui, ne sera pas au Stade Katoto. Les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde aussi ne pourront pas avoir lieu au Stade Katoto. Il nous faut plusieurs stades comme ça se fait ailleurs. Donc un second stade est à l'ordre du jour. Nous avons pris la décision de construire un nouveau stade entre 15 000 et 20 000 places. Et que l'entretien est aussi plus facile, ainsi de suite. Et avec les prospections qui ont été faites, nous sommes en train de finaliser les accords pour avoir un terrain de 22 hectares au niveau de Kourougou pour que ces stades puissent être construits. Et la construction de ces stades, si tout va bien, sera réalisée par la Chine.
Vous êtes venu trouver également un gros dossier sur votre bureau, celui des salaires des entraîneurs. Alors, la question est réglée.
Oui, je peux dire d'entrée que ce problème est réglé et on est même en avance. Si vous permettez, je voudrais dire que les contrats des entraîneurs ne sont pas signés entre le ministère et les entraîneurs. Les contrats sont signés entre la fédération et les entraîneurs. Et le ministère fait une subvention ou qui est indexée pour payer les salaires des entraîneurs. Il se trouve qu'il manquait quand même une coordination entre les deux entités. Parce qu'entre celles qui contractent et celles qui donnent l'argent pour les payer, il aurait fallu qu'ils parlent de la même voix. Aujourd'hui, nous avons réussi à clarifier la situation. Nous avons le montant que nous avons pu demander pour qu'on le garantisse. Vous avez signé un contrat. On dit dans le contrat que le contrat fait 2 ans. Et on vous a donné des objectifs qui pourraient tenir sur les 2 ans. Mais 2 mois ou 3 mois plus tard, vous êtes allé dans des compétitions, vous avez été éliminé. Personne ne met à jour les objectifs de votre contrat. Donc vous êtes assis et vous dites, j'attends qu'on me paye. Nous, nous ne paierons des contrats que si les objectifs sont à jour.
Alors, monsieur le ministre, en français facile, vous l'avez dit, le contrat c'est pour 2 ans. Dans les objectifs, il doit qualifier l'équipe pour telle compétition. Et au bout de 3 mois, il est éliminé. Et ça dit que tout le temps où il sera à la maison, il ne sera pas payé.
Il faut qu'on mette à jour les objectifs de son contrat.
Okay.
Et ce qui est normal. Donc, on ne peut pas. Il faut mettre de l'ordre dans ça. Je n'ai pas dit que je ne le paye pas. J'ai dit qu'il faut mettre à jour les objectifs.
Parlant du contrat des objectifs, on sait qu'il y a l'entraîneur national, M. Hubert Vulut. Est-ce que chez lui aussi, le contrat d'objectif s'applique à lui?
Alors, vous voyez, ça, c'est tous les entraîneurs, sans exception, dans leur contrat, il y a des objectifs. Et ils sont tous pareils.
Sur le même pied d'égalité.
Sur le même pied d'égalité. On a dans le contrat que Hubert Vulut nous ramène la Coupe d'Afrique. Dans le contrat, c'est ça. Vous savez que son contrat a été signé avant qu'on ne sache même que la Coupe du Monde, on aurait 10 places. Et c'est au Qatar que ça a été décidé. Donc, cela veut dire que pour le moment, il a un contrat sur la CAN et qu'il va falloir faire l'ouverture pour concerner l'autre partie. Et il n'est jamais interdit de faire un avenant à un contrat. Ça peut être un avenant sans incidence comme un avenant avec incidence.
Et si on est éliminé dès le premier tour, on suspend le contrat?
Si on est éliminé dès le premier tour, la durée de son contrat va au-delà du premier tour. Donc si on ne lui donne pas de nouveaux objectifs, moi je dois prendre mes responsabilités.
On sait que récemment, en Conseil des ministres, vous avez soumis une réforme qui a été adoptée, Burkina Yinouigir Meta. Alors, qu'est-ce que c'est?
Nous avions, au niveau du Stade Katoto, subi tout un imbroglio. Et pour éviter tout cela et ne pas toujours avoir des responsabilités, nous avons dit, comme ailleurs ça s'est fait, il faut avoir une structure unique. C'est pour ça que nous avons regroupé au sein d'une même structure, Burkina Yiwiskr Meta, c'est Amoré, et qui a donc la responsabilité de s'occuper des études, contrôle des réalisations, de l'exploitation des réalisations, de la maintenance et aussi du bien-être des sportifs.
Et il aura un seul commandant à bord.
Il y aura un seul commandant à bord.
Merci bien, monsieur le ministre.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré à la retransmission Facebook Nassata Nabié. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et Et on s'arrête ici pour ce journal techniquement piloté par Adama Konaté. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.